Bonjour, bonjour, Yves Micro-Micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition et qui vous rappellera ou qui vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale plus ou moins pertinente les petites images qui bougent sur les grands écrans de référence, mais là où vous voulez, si vous n'avez pas de grands écrans sous la main. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien nous allons sinon inaugurer une nouvelle thématique, du moins faire quelque chose qu'on n'avait encore jamais fait, c'est-à-dire nous consacrer aux adaptations cinématographiques d'œuvres d'un romancier, qui était d'ailleurs bien autre chose qu'un romancier, en l'espèce le dénommé Herbert George Wells, de son nom de plume H.G. Wells, né le 21 septembre 1866 dans le Kent et mort le 13 août 1946 à Londres. Alors Herbert George Wells, H.G. Wells, il a eu une carrière protéiforme puisqu'il fut l'auteur de nombreux romans de satire sociale, d'œuvres de prospective, de réflexion politique, sociale. C'était un homme très engagé dans son temps, y compris des ouvrages de vulgarisation sur la biologie, l'histoire, etc., etc. Mais au cinéma, ce n'est évidemment pas ce genre de choses qu'on aura vu. On aura plutôt vu l'adaptation de quelques romans absolument remarquables qui en font un des pères de la science-fiction contemporaine et qui ont marqué aussi bien leur époque, leur temps de parution, quelque part à la fin du 19e siècle, que le cinéma qui continue aujourd'hui encore à puiser dans ces petites merveilles que sont, je les cite, et puis on va les évoquer cinématographiquement, La machine à explorer le temps, sorti en 1895, L'île du docteur Moreau, sorti en 1896, L'Homme invisible, sorti en 1897, et La guerre des mondes, sorti en 1898. Alors, des titres, j'imagine, qui vous disent quelque chose, puisqu'on ne compte plus, ou presque, les adaptations cinématographiques de ces livres, ou tout au moins les volontés d'adaptation qui souvent se transforment en trahison. En tout cas, avec ces quatre romans et quelques autres, comme Les premiers hommes dans la lune, sorti en 1901, eh bien, H.G. Wells aura creusé un sillon dans lequel nombreux furent ceux qui plantèrent des graines, etc., etc., etc. Et on va commencer, plutôt que rester dans de lyrisme, par écouter un extrait de la bande originale d'un film sorti en 1959, un film de Georges Pal, intitulé « La machine à explorer le temps », qui donc, comme son titre l'indique, est une adaptation plus ou moins, et plutôt moins que plus, fidèle du roman d'H.G. Wells. Je vous en dirai quelques mots, mais j'ai déjà été assez bavard. Je ne vous dirai juste que la musique de ce film, elle était signée de Russell Garcia, et qu'on en écoute donc un extrait, The Time Machine, dans 24 notes secondes. Voilà un délicat extrait de la bande originale signée Russell Garcia de The Time Machine, La machine à explorer le temps, un film de George Pal tourné en 1959 qui, comme je l'ai dit, prenait quelques libertés avec le roman d'H.G. Wells. Alors parmi ces libertés, mais elle était un peu obligatoire, on visualisait la machine à explorer le temps qui dans le roman est très très vaguement décrite et George Pal a évoqué ou avoué que leur idée de départ à son décorateur et à lui, c'était une chaise de coiffeur auquel ils ont ajouté un traîneau. Bon, le résultat à l'écran est plutôt bienvenu et il y a une petite allusion puisque sur la machine, on voit « Manufactured by H. George Wells », c'est-à-dire fabriqué par H.G. Wells, c'était un hommage relativement évident. Pour le reste, et bien évidemment, la machine, elle voyageait dans le temps, hein, c'était son but. Elle allait à partir du 31 décembre 1899, date évidemment pas choisie au hasard, elle allait en 1917, en 1940, en 1966. Alors là, c'était quasiment la fin, puisqu'il y avait une guerre atomique, un sujet qui n'était pas du tout présent, évidemment, chez H.G. Wells en 1895, mais qui l'était beaucoup, par contre, dans les années 60. Et après, on sautait carrément, alors je prends mon élan, en 802-1701, c'est-à-dire relativement loin quand même dans le temps, où il y avait deux espèces antagonistes, les gentils Héloïs et parmi eux la délicieuse Yvette Mimieux, qui provoquait des émois d'adolescents parfois coupables, j'en témoigne. Et il y avait les méchants Morlocks qui étaient les maîtres avec des maquillages tout à fait réussis. D'ailleurs, les effets spéciaux du film étaient si réussis qu'ils valurent un Oscar à leurs auteurs, Jen Warren et Tim Barr. Le film a certainement bien mal vieilli et pourra être un peu accusé de romantisme, puisque le roman d'H.G. Wells est beaucoup plus sombre. Le film se termine bien, pas le roman. Mais ma foi, le résultat a été plutôt sympathique et plutôt fidèle à l'œuvre d'H.G. Wells. Rien de tel dans le film dont on va écouter maintenant un extrait de la bande originale. Alors, il s'appelle tout simplement Invisible Man, donc on devine que c'est une adaptation du roman L'Homme Invisible. Mais le film n'a que peu à voir avec, à part son parti pris d'origine, c'est-à-dire un homme qui devient invisible, n'a que peu à voir avec le roman d'origine de H.G. Wells. Mais par contre, il est très péchu, si on me passe l'expression. Dans les rôles principaux de ce film, eh bien, il y a Elizabeth Moss, plus connue pour être l'actrice principale de la série télévisée La Servante Écarlate, et puis quelques acteurs un peu moins connus, et là c'est l'originalité, et bien Elizabeth Moss est la victime persécutée par un homme donc, qui devient invisible, un scientifique de génie qui cède en l'espèce de l'optique pour devenir invisible. Ne m'en demandez pas plus, on ne comprend pas toujours tout dans le film, mais évidemment le film joue beaucoup sur les menaces invisibles de ce personnage paranoïaque et tout à fait détestable. C'était d'ailleurs le cas aussi dans le roman d'H.G. Wells, contrairement à ce qu'on pense. L'homme invisible du roman d'H.G. Wells, il est tout à fait détestable. Le film est quand même plutôt réussi à cette aune-là. Elizabeth Moss fait, pardonnez-moi du terme, une victime tout à fait idéale. D'ailleurs, le public ne s'y est pas trompé, qui en a fait un gros succès de l'année 2020. Juste avant ce que vous savez, on va écouter un extrait de cette bande originale. Elle est signée de Benjamin Wallfisch, Invisible Man dans 24 notes secondes. un extrait d'Invisible Man, c'est mieux, une musique de Benjamin Wallfisch, un film de Leigh Whannell, il me semble que je ne l'avais pas cité, honte à moi, avec Elisabeth Moss dans le rôle principal, non pas de la femme invisible, quoique ça existe le film La femme invisible, mais dans le rôle d'une jeune femme persécutée par un homme invisible, en tout cas rendu invisible par un procédé optique. Là encore, dans le roman d'H.G. Wells sorti en 1897, on ne sait pas trop comment l'homme devient invisible, mais évidemment c'est un prétexte en or et je dirais que cette notion d'invisibilité, elle a été déclinée de toutes les manières possibles et imaginables et donc on a même vu pendant la Seconde Guerre mondiale l'homme invisible aux côtés des alliés en train de chasser les méchants nazis, ma foi. Pourquoi pas ? On va faire un tout petit écart avec notre parti pris du début, puisqu'en fait, on va s'intéresser à une curiosité, un film de William Cameron Menzies, tourné en 1936, et qui est adapté d'un roman d'H.G. Wells, intitulé « La vie future », en anglais « Things to come », et qui est adapté par H.G. Wells lui-même, puisque vous aurez retenu que Wells est mort en 1946, donc en 1936, il était encore en pleine activité, et donc c'est lui qui avait adapté son roman, une histoire assez édifiante. H.G. Wells faisait partie de ces gens qui croyaient au progrès technologique et à la possibilité par le progrès technologique de faire progresser l'humanité. Et par conséquent, La vie future est une sorte d'évocation apologique qui commence en 1940 avec une mobilisation générale. C'est là encore pas un hasard pour un film qui, en 1936, pouvait hélas deviner qu'un second conflit mondial était quasiment inévitable, puis se poursuit ensuite en 1970, puis en 2036, avec à chaque fois eh bien, une parabole parfois un peu lourde sur les bons, les méchants et le progrès humain qui finit malgré tout par triompher. Les décors, les costumes de ce film, à replacer évidemment dans le contexte de 1936, sont tout à fait étonnants. S'il y avait une chose que Wells ne voulait pas, c'était reproduire le Metropolis de Fritz Lang, resté lui aussi fameux pour ses décors et autres costumes, parce que dans Metropolis, les machines sont méchantes, tandis que pour Wells, elles sont une occasion pour l'humanité de se libérer. Et ma foi, le résultat est d'une curiosité tout à fait surprenante que je vous invite éventuellement à découvrir sur votre site pirate préféré. On va écouter un extrait de la bande originale de ce film. Elle est signée d'Arthur Bliss dans 24 notes secondes. We'll be right back. Voilà, la belle musique d'Arthur Bliss pour La vie future de William Cameron Menzies, un film de 1936 avec un scénario adapté par Herbert George Wells lui-même d'après son roman. Et apparemment, Herbert George Wells a été très présent dans la production de ce film. Une curiosité de l'époque avec des acteurs qui seront ensuite connus comme Ralph Richardson et Sir Cedric Hardwicke. On va passer à tout à fait autre chose, mais toujours rester avec H.G. Wells en écoutant un extrait de la bande originale de La Guerre des Mondes, évidemment, hein, l'un des grands romans d'H.G. Wells, l'histoire des Martiens qui débarquent sur Terre avec des vaisseaux diaboliques, les fameux tripodes, pour nous envahir et nous exterminer, tout simplement. Mais à la fin, ils sont vaincus. Par quoi, je ne vous le dis pas, si par hasard vous l'ignorez. Et en 2005, eh bien, Steven Spielberg lui-même réalisa la seconde adaptation en titre de ce livre. Il y avait eu une première en 1953 avec Jane Barry et Anne Robinson sous la direction de Byron Askin. Évidemment, en 2005, Spielberg, avec en plus comme interprètes principaux Tom Cruise et Dakota Fanning, avait des moyens autrement importants, notamment en termes d'effets spéciaux. Le résultat a été ma foi plutôt bienvenue. Alors il était transposé dans un contexte américain d'une part, contemporain de l'autre, alors que le roman se déroulait en Angleterre bien sûr et quelque part à la fin du 19e siècle, mais moyennant ça et moyennant le fait de supporter Tom Cruise, qui n'est pas toujours très facile à l'écran, eh bien c'était plutôt réussi. La musique était signée de John Williams, comment pourrait-il en être autrement ? En tout cas à cette époque, avec Steven Spielberg, et je vous propose donc d'en écouter un extrait dans 24 notes. Second. La musique de John Williams pour l'adaptation spielbergienne de La Guerre des Mondes, un roman d'H.G. Wells. Et on va se quitter avec un autre roman d'H.G. Wells adapté au cinéma. On va boucler la boucle avec un extrait d'un remake de La Machine à explorer le temps. Un film tourné en 2002 par Simon Wells. Et oui, le bien nommé. Et effectivement, apparemment un descendant d'H.G. Wells lui-même. Alors là encore, beaucoup de liberté avec le roman d'origine. Le rôle principal du film était tenu par Guy Pearce. La musique, elle est de Klaus Badelt. Et je vous laisse avec elle dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, allez, bye bye.